savourer nos différences.
Pop Flash, l'émission pop culture, jeux vidéo, manga, films, séries, animations, jeux de rôle et internet. Présenté par Mel et JR, un mercredi sur deux sur Radio G.
Sur Radio G, vous êtes sur Pop Flash. Je suis JR et encore une fois, je serai votre présentateur pour cette dernière émission du mois de mai. Il fait beau, il fait chaud, c'est bientôt la fin de saison. Et j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis accompagné de mon acolyte de toujours, Mel. Comment vas-tu, Mel, aujourd'hui ?
Coucou, bonjour à tous. Ça va très bien, merci. Il fait beau, donc ça fait du bien. Et toi, comment ça va ?
Ça va très très bien. Je suis plutôt content. Comme dit, il fait beau, les oiseaux chantent, tout ça.
Hein. Je suis content, c'est le printemps.
Je suis content, c'est le printemps. Après, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est du bien-être, on fait la fête. Mais de toute façon, aujourd'hui, au programme, moins de chroniques que d'habitude. On va tout de suite commencer avec Game Pop qui sera présenté par Mel comme d'habitude. On va tout de suite enchaîner avec Qu'est-ce qu'on lit, avec deux livres qui ne sont pas des sorties récentes mais des livres qui m'ont marqué en manga et en comics, enfin une BD franco-belge pour le coup. Et on finira sûrement par la petite chronique Lancer les dés, dans lequel je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai parlé d'un petit jeu avec des chats. Et du coup, forcément, aujourd'hui, on va parler de son grand frère, celui avec les vampires. Mais on parle beaucoup, mais là, de toute façon, on va se retrouver juste après le petit jingle de Game Pop avec Mel. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Actu et test jeux vidéo, c'est Game Pop avec Mel.
Entre pros et consoles et polémiques, ce mois de mai 2025 a été intense dans le monde du jeu vidéo. Et pas seulement côté sortie, on parle aussi de procès, de consoles qui arrivent et de contrats qui fâchent. Alors on vous fait le récap dans Game Pop. Epic vs Apple. On commence avec le feuilleton qui n'en finit plus, Epic Games vs Apple. Malgré une décision de justice favorable à Epic qui devait permettre à Fortnite de revenir sur l'App Store sans payer la fameuse commission de 30%, Apple a bloqué sa réintégration le 16 mai. Résultat, toujours pas de Fortnite en natif sur iPhone ou iPad. Epic crie à l'abus de pouvoir et accuse Apple de transformer le système de validation des apps en arme. Les joueurs iOS, eux, doivent toujours passer par le cloud gaming pour jouer à Fortnite, mais on est loin de l'expérience d'origine. Microsoft rachète Activision. Clap de fin pour la FTC. Autre bataille juridique, autre ambiance. Microsoft a enfin gagné contre la Federal Trade Commission aux États-Unis. La Cour d'appel a rejeté la tentative de blocage de la FTC, validant l'acquisition d'Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. C'est donc officiel, Microsoft peut finaliser la fusion, un tournant historique pour le monde du jeu vidéo qui pose quand même pas mal de questions sur les monopoles de la diversité éditoriale à venir. Alors, Nintendo attaque Palworld encore. Comme c'est étonnant, tiens donc.
En plus tard de déjà vu quand même.
Eh oui, hein, dans Game Pop, vous savez, on adore parler de Nintendo et on adore parler des procès de Nintendo. Chez Nintendo aussi, ça cogne. Mais cette fois, en justice, le studio japonais a lancé une procédure contre Pocket Pair, donc les créateurs de Palworld, qui accusent de copier les mécaniques de Pokémon, notamment la capture avec des sphères et des vols à dos de créatures. Résultat, les développeurs de Palworld ont retiré ces fonctionnalités pour éviter le pire. Mais ils ne lâchent rien et affirment que certaines de leurs idées ont été publiées avant le dépôt de preuves de Nintendo. Affaire à suivre donc, sachant que Petite info en plus que j'ai lu tout à l'heure. Nintendo a accepté qu'ils gardent les planeurs, enfin qu'ils utilisent des planeurs. Mais par contre, voler sur les dos de créatures, ça c'est non.
Je peux réagir tout de suite, genre petite
interlude. Vas-y.
Vous pouvez utiliser les planeurs parce que c'est nous qui l'avons inventé. Par contre, voler sur un dos de dragon ou un dos de truc, c'est nous. Mais vous êtes complètement con.
Oui, non, mais après, le planeur, c'est pas un truc que Nintendo a créé,
oui.
Forcément.
Mais même voler sur les dos de créatures, ils vont faire quoi après? Attaquer tous les trucs où tu peux avoir une monture? Non, mais vous comprenez, là, ce cheval, ça ressemble un peu à un ponita, et du coup, vous pouvez pas, vos gueules.
Justement, à un moment donné, ils avaient déposé un brevet qui est un brevet, pour dire que tout ce qui slidait ou qui volait en planant était à eux. Et du coup, c'est pas passé, forcément.
Est-ce que je peux être, en restant évidemment forcément poli, ouais. Mais quelle bande de sacs à merde.
Et c'est comme ça que d'ailleurs que...
Et c'est comme ça, désolé.
Quoi?
Mais et c'est comme ça.
Pardon. Et c'est comme ça d'ailleurs que...
Désolé. On va pas couper ça.
Bref, et c'est comme ça d'ailleurs que les leaks avaient découvert qu'il y aurait de la construction dans Tears of the Kingdom, parce qu'ils avaient justement déposé les brevets pour de la construction ou des choses qui slide sur le sol ou en l'air. Et c'est comme ça qu'on a découvert que Tears of the Kingdom aurait des constructions et des nouvelles choses par rapport à Breath of the Wild.
Non mais faut quand même imaginer, hein. Il y a quatre vieux gars chez Nintendo qui est en mode ils vont pouvoir construire des trucs. Ça veut dire qu'on l'a inventé. Alors vous êtes sûr, monsieur, ta gueule, toi.
Ouais, mais du coup c'est pas passé.
Ouais, non, mais évidemment coup, que c'est pas passé. Ils sont trop cons. Mais, franchement, plus ça va, plus Nintendo est la pire compagnie de jeux vidéo.
Alors par contre, ouais, c'est pas fini. Mais par contre, effectivement, Palworld a évidemment par rapport au lancer de Sphere. Là, et par rapport à la capture de Pokémon, enfin de Palworld, du coup.
Ouais, il y a un truc, mais okay. En fait, c'est pour moi.
Mais
ça
pour le reste, bon, voilà.
En fait, ça revient au même truc que par rapport au brevet. C'est peut-être quelque chose qui va pas te parler, mais je sais pas si t'as déjà entendu parler des jeux Seigneur des Anneaux qui étaient l'ombre du Mordor, tout ça.
J'ai entendu parler des jeux, ouais.
Il y a une mécanique dans ces jeux qui était géniale, qui était la mécanique de Nemesis. La mécanique de Nemesis, c'était en fait quand tu croisais des orques, parce que c'est les orques que tu faisais, si les orques te tuaient par exemple, ils revenaient plus forts, ils gagnaient en grade. Ils devenaient plus forts et du coup il fallait que tu ailles les tuer parce que c'est un Nemesis. Mais il y avait du coup toute une mécanique avec quand tu mourais, l'orque qui te tuait montait en grade et devenait plus fort, il y avait du meilleur stuff, et le stuff on aime ça. Mais surtout il y avait autre chose aussi, c'est que parfois tu pouvais tuer un orque qui faisait semblant d'être mort et qui revenait plus fort et qui s'appelait le ressuscité ou des trucs. C'était quelque chose qui était cool parce que ça rendait le monde vivant. Je sais plus quel est le studio qui l'a fait, mais le studio l'a mis sous copyright.
Ouais.
Et ils ont non plus rien fait. Du coup,
ça veut dire que du coup, si un développeur de jeu autre que eux ont cette idée à un moment donné de faire ça avec
payer.
Un truc, soit ils doivent payer, soit ils doivent voir avec eux.
Oui, mais sauf que le problème là-dedans, c'est que. Je sais plus c'est qui l'a fait. Je vais regarder tout de suite. Il y a un monde où c'est genre Warner. Je crois que c'est Warner Bros. Et Warner Bros, c'est aussi des chiens. Mais et tu vas regarder la mode. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais non, l'ombre du Mordor, ça a été fait. Donnez-moi deux petites secondes parce que c'était pas prévu que j'en parle. Ça a été fait. Par Monolith Interactive, Behavior Game. Ouais, du coup, c'est. Je crois que c'est genre Microsoft ou Warner. Et du coup, en fait, ils n'en ont plus rien fait et ils ne refusent que les gens l'utilisent. Et du coup, avant 10 ans, il n'y aura plus probablement aucun jeu qui pourra utiliser cette mécanique. Et là, on voit quand même Nintendo qui est en mode « Si les gens, ils valent, c'est que c'est à nous. Si les gens, ils attrapent des trucs et des créatures qui ne sont pas vraiment des animaux, c'est que c'est à nous. C'est quoi la prochaine étape? Si les gens vont en chiotte et qu'il y a une petite animation drôle, c'est à vous aussi ?» À partir du moment où on va jouer un enfant qui est abandonné par sa mère parce que elle est très intéressée par le professeur Chen, c'est à vous aussi? Non mais faut doser à un moment.
Non mais voilà. Et c'est pas fini.
Ah.
Et c'est pas fini. Switch 2, prix, date, contrat qui pique. Côté matos, la Switch 2 arrive le 5 juin aux États-Unis. Comptez 449,99€ pour la console seule et 499,99€ si vous optez pour la bundle avec Mario Kart World 9. En Europe, ça tourne autour de 470€ pour la console seule et au Japon, deux versions sont prévues, dont une multilingue à 69 980 yens. Jusque-là, tout va bien, sauf que Nintendo en a profité pour durcir son contrat utilisateur. Et on en a parlé d'ailleurs ce matin avec JR. Dans la nouvelle, là, vous savez, ce truc-là qu'on clique sans lire, en gros, les utilisations, les conditions d'utilisation générale, Nintendo s'autorise désormais à briquer à distance toute console Switch 2 si elle est hackée ou modifiée. Et cerise sur le gâteau, plus aucun recours collectif possible. Si vous n'êtes pas d'accord, vous devez faire un opt-out. Je ne connais pas bien ce mot. Sous 30 jours. Sinon, c'est arbitrage privé obligatoire.
Tu veux un petit truc drôle sur le opt-out? Je ne sais pas si tu l'as écrit.
Non.
Le opt-out, ils ont mis une petite ligne, mais ça passera probablement pas. Tu ne peux pas faire ta petite lettre pour dire que tu n'es pas d'accord par ordinateur et la renvoyer par mail. Il faut que ce soit écrit de manière manuscrite.
Ah bon ?
Sinon, ça ne marche pas.
Mais...
Ils sont tarés. Ils sont tarés.
Mais ça va pas. Après, ça, c'est peut-être les conditions d'utilisation au Japon et pas...
Ah non, c'est aux États-Unis. Et en fait, ils sont en train de se faire lyncher.
Ouais, parce que je sais que au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, au niveau du Japon, c'est pas tout le temps les mêmes conditions. D'ailleurs, on a vu une petite news en plus par rapport à ça, c'est qu'en fait, vu que les jeux vont être de plus en plus dématérialisés visiblement parce qu'ils favorisent ça sur la Switch 2. Le problème, c'est qu'en fait, s'ils font une erreur, parce que c'est déjà arrivé de se dire, bah oui, telle console a été modée ou craquée, etc. Alors que pas du tout. Il se passe quoi ?
Il se passe que tu te fais baiser. Tu poses
c'est
vraiment
ça,
la question.
Problème. Donc, je sais pas, ça reste très compliqué. Donc attention, ne modez plus vos consoles.
Ah si, modez vos consoles. Enfin, j'ai envie de vous dire, baiser Nintendo.
Non, ne modez plus, ne hackez plus.
Le hacking, c'est pas bien.
Hacker, c'est mal. Mais modez, évitez de modez peut-être en attendant. Ou lisez bien les conditions pour voir si vous pouvez modez. Mais parce que je sais qu'avec la Nintendo Switch 1, par exemple, avec Animal Crossing New Horizons, on pouvait modder le jeu. Du coup, il y avait plein de modes et c'était des modes un peu hack et tout ça. Et du coup, ça permettait de rendre le jeu pas forcément meilleur, mais il y avait des différences où il y avait des choses adaptées, etc. Et du coup, si dans la Switch 2 vous essayez de faire ça, je pense que ça passe pas.
Je suis désolé, mais les modes Animal Crossing New Horizons, ça rendait juste le jeu meilleur. Ça faisait des trucs que les développeurs devaient faire, mais c'était gratuit. Et je pense que c'est plus ça qui les fait chier, c'est que c'est gratuit. Ouais. Et du coup, ils sont en mode, c'est de l'argent, moi. Je suis désolé, je suis énervé, je suis colère contre...
Je crois que Nintendo n'aime pas trop les modeurs.
Mais Nintendo a 50 ans de retard.
Je sais pas, parce que il y a quand même eu plein de modes de jeux avec Zelda où ils ont rien dit. Mais je pense qu'ils aiment pas trop, non.
Mais Nintendo aime pas plein de trucs, mais là.
Après, c'est leur politique et ils ont le droit de ne pas apprécier.
On a le droit de les insulter.
Non, mais je trouve ça juste dommage, en fait. Par exemple, je pense que ça pourrait être un sujet. L'intérêt d'avoir des modes dans un jeu, etc. donc à garder. Mais par exemple, Baldur's Gate et l'Arian Studio qui poussent justement au mode, EA qui pousse les modeurs et qui ça c'est un truc qui font bien pour le coup. Ils mettent en avant les créateurs de mode sur les de mods sur les Sims 4 par exemple. Alors même si EA a une politique voilà,
mais la merde.
Mais au moins ils mettent en avant les créateurs et
bah, comme je te dis, Nintendo a 50 ans de retard, mais pas que sur ça, sur l'e-sport, sur les mods, sur leurs consoles. Parce que leur console, là, ils sont quand même en train de nous vendre une console à 500 balles parce que, et qui est aussi puissante qu'une PS3.
470 euros.
Excuse-moi. Seul, oui. Genre, ils sont en train quand même de nous dire, vous voyez cette console qui est exactement la même que notre ancienne console sans le bel écran que vous avez payé beaucoup plus cher. Oui, mais vous êtes des pigeons. Achetez donc cette nouvelle console avec le truc qu'on aurait dû régler il y a des années mais qu'on n'a pas fait et qui a la puissance d'une PS3. Ensuite, achetez ce magnifique jeu dématérialisé parce qu'il coûtera le prix que le jeu devrait coûter parce que ça coûte tellement cher en fait de devoir acheter, de faire les boîtes, tout ça. Mais vous pouvez tout de même acheter les boîtes avec des codes pour le jeu dématérialisé. Et si ça ne va pas...
Ça, je ne comprends pas. J'ai pas compris ce délire d'acheter une boîte mais t'as un code dedans.
En gros, ils s'en mettent. Créer les cartouches, ça coûte cher et vous savez, on est touché par... Et tout le monde est touché par la crise.
Dans ce cas-là, tu crées pas de
boîte. Vous êtes riche.
Non mais attends, mais si tu crées... Pourquoi tu crées des boîtes?
Parce qu'ils le vendent plus cher.
Mais autant ne pas... Et ça me laisse perplexe toujours. Et j'ai du mal à concevoir qu'il y ait des boîtes sans chose à l'intérieur, avec juste un code. Ça me paraît lunaire, en fait. Je me dis, comment ils peuvent penser que c'est une bonne idée?
Parce que Jean-Philibert du 52 adore avoir les boîtes à mettre dans son petit truc. Du coup, ils sont en mode...
Non, mais moi aussi, j'adore avoir la collection de boîtes.
Sauf que tu n'es pas une pigeonne.
Non, mais c'est pas une question d'être pigeon ou pas. J'adore avoir mes boîtes, mais autant que ça me serve et que je puisse ranger mes cartouches.
Oui.
Je ne vais pas prendre des boîtes en plastique qui...
Qui polluent.
Enfin, et surtout, excusez-moi, les boîtes Nintendo...
De la merde.
Si c'est pas des éditions spéciales,
c'est trop moche. C'est trop moche.
Bah, c'est pas que c'est trop moche, mais c'est une boîte en plastique.
C'est une boîte en plastique petite qui est genre plus petite que celle qu'on a en plus. Du coup, elles font tâche dans les collections parce qu'ils ont décidé de faire des trucs plus petits.
Non, parce que tu ranges Xbox avec Xbox,
oui,
PS avec PS, Nintendo avec Nintendo, donc ça fait des tailles.
Mais genre en fait, ils veulent juste en mettre plein les poches et genre vraiment maintenant ils s'en cachent même plus. Ils ont quand même sorti le fait que mais c'est la crise économique et puis ce qu'a fait Donald Trump. Arrêtez, c'est pas vrai.
Non,
vous voulez juste être là et le fait qu'on ait des jeux à 80 euros et que maintenant les gens sont en train de s'aligner dessus, c'est de leur faute.
Aussi, j'ai vu que Nintendo aurait dit qu'en fait la Switch 2 se voulait d'une qualité plus premium et donc du coup c'était pour les gens entre guillemets qui voulaient mettre dans du premium.
Non mais vous voulez aller dans du premium? Non, parce que là il va falloir dire les termes. En moment, tu vois, c'est bien de parler des consoles, c'est bien de parler de Mario Kart, tout ça, mais vous voulez du premium? Allez sur un PC. Non, parce que pour 500 balles, vous avez une 3050 avec un bon processeur, avec du coup une bonne carte graphique, avec tout ce qu'il fait. Et vous savez c'est quoi le plus beau avec ça? C'est qu'avec un PC à 500 balles, alors certes c'est dur à le faire monter, ça vous coûtera peut-être 50 euros de plus pour payer quelqu'un pour le monter à votre place, mais après ça, sans évidemment le craquer, évidemment en utilisant un émulateur des jeux que vous aurez acheté, parce que voilà, vous pourrez jouer aux jeux Nintendo avec une meilleure qualité, n'est-ce pas dingue? Parce qu'il existe quelque chose qui s'appelle des émulateurs, et du coup vous pouvez jouer à tous les jeux Nintendo en plus ultra. Damn, est-ce que le PC serait quand même beau, que serait quand même supérieur? Je suis mauvaise langue.
Oui, bah c'était juste très team PC quoi.
C'est pas que je suis très team PC, c'est qu'à un moment
quand
les gens
team PC.
Quand les gens nous prennent pour des cons, enfin il faut réagir, je sais pas, parce que 80 euros pour un Mario Kart, 80 euros pour un Mario Kart où le seul truc qu'ils ont changé c'est rajouter 3 maps et ils ont rajouté un éléphant.
Non, il y a plus de choses quand même. Déjà il y a monde ouvert en karting, ça c'est...
Il y a plein de trucs qui le font déjà.
Non mais...
Forza Horizon.
Oui d'accord, mais là je te parle de Mario Kart.
Ouais mais Mario Kart, genre Mario Kart a des moins bons graphismes que Forza Horizon. c'est une technologie qui existe déjà. Ça coûte, ça mérite pas le prix. Ouais, mais on a rajouté un éléphant. Il pue la merde, ton éléphant.
Non, mais après, je justifie pas le prix, mais les jeux de Nintendo ont toujours été chers.
Ouais, mais c'est pas qu'ils ont toujours été chers. Ils ont toujours été au prix des autres. Et c'est normal, il y a beaucoup de prix. Je faisais assez véhément parce que ils m'énervent. Ils m'énervent au plus haut point. Ils ont certains jeux qui sont des jeux là-bas. Zelda. Mmh. Mario Kart. Mmh. Mario. Mmh. Et puis c'est tout. Qui sont des jeux légendaires.
Animal Crossing,
ok. Qui sont des jeux légendaires. Je suis en train de voir le temps.
Ouais, mais c'est pour ça
que
j'aimerais bien.
Et je te laisse finir juste après ça. Et c'était dans les prix. Là, ils sont en train d'augmenter tout ça. Et c'est pas justifiable. Ce n'est pas justifiable. Ouais, mais on a rajouté une caméra. Elle est nulle, ta caméra. Elle est nulle. Il faut le dire à un moment. Discord fait mieux et Discord, c'est gratuit.
Plus pour longtemps
peut-être. Mais
on en parlera plus tard de
genre,
ça.
Genre vraiment, leur caméra à 2 balles, c'est une caméra que je peux aller acheter sur AliExpress pour 3 euros.
Je sais pas encore, vraiment. Ouais. J'attends de voir,
mais moi je n'achèterai pas cette console du
Zelda. En fait, on dit ça, mais dans 2 ans, il va y avoir un Zelda banger, on va l'acheter direct. Ou même dans moins de 2 ans, je pense, il va y avoir un Zelda incroyable, on va devoir l'acheter. Parce qu'on est des pigeons.
Over my dead body.
Bah pas moi.
Non, je vais finir le coup.
Bref, les petites actus, c'est terminé maintenant. Mais je vais faire une petite review d'un jeu que j'ai découvert depuis quelques mois. Genshin Impact. Genshin Impact est un jeu créé par le studio MiYoYo. Sorti en 2020 sur PC Android et iOS et plus tard sur console. Je ne veux pas trop m'attarder dessus parce que c'est un jeu très populaire et que vous avez sûrement déjà entendu parler de ce dernier. La base de l'histoire est simple, vous ne le voyez pas mais je fais des guillemets. Lumine et Aether se retrouvent séparés et transférés dans un monde inconnu, Teyvat. Que vous incarnez la sœur ou le frère, votre quête est de retrouver à tout prix votre Adelph. Mais Teyvat est un monde plein de mystères avec ses propres règles et déités. Avec Paimon, votre compagnon de voyage, vous partez à la recherche d'informations. Mais votre voyage sera loin d'être de tout repos. C'est un monde semi-ouvert, cependant, on ressent la liberté du monde ouvert. Chaque région est vaste et grande, assez pour découvrir des lieux même après plusieurs mois de jeu. J'avais commencé à y jouer il y a longtemps en accès anticipé, mais je sais pas, j'avais pas trop aimé, j'étais pas dans le mood. Et peut-être qu'à l'époque, j'avais pas encore saisi toutes les subtilités du jeu. Quoi qu'il en soit, j'y rejoue depuis quelques mois et bon sang que c'est génial. Le synopsis de base ne lui rend pas justice. Le jeu est beau, poétique, plein de richesses, que ce soit en termes d'émotion ou de contenu. Chaque région du monde de Teyvat est inspirée de nos cultures et de notre monde. Chaque pays, régi par un archon ou dieu si vous préférez, amènera sa dose d'histoire, de mystère et d'émotion. Le jeu est tellement vaste que même après des mois et des mois de jeu, je n'en suis qu'à la 4e région et je suis loin d'avoir fini, ni même d'avoir exploré les 3 premières régions à 100%. De plus, le jeu est régulièrement mis à jour, et ce depuis 5 ans. Tiens donc, il y a des développeurs qui devraient mettre ça en place, genre, n'est-ce pas, Animal Crossing?
Ouais, genre Nintendo. Ouais.
Bref, et le meilleur dans tout ça, le jeu est gratuit puisqu'il s'agit en fait d'un jeu gacha. En gros, vous allez devoir récolter des primogèmes qui est l'une des monnaies du jeu. Avec cela, vous obtiendrez des personnages grâce aux bannières qui changent régulièrement et vous êtes un peu dans le mode du hasard. Vous avez 5 personnages proposés et en fonction, après c'est un peu compliqué, on parle de pitié, on parle de choses comme ça. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le gacha, c'est un peu compliqué. Même moi, j'ai encore du mal à tout comprendre. Donc sur chaque bannière, vous avez un perso 5 étoiles et 4 persos 4 étoiles. Donc les 5 étoiles, forcément, ce sont des plus rares. Forcément, ils sont un peu plus forts, etc. Et c'est un peu du hasard, c'est le but d'un gacha. Mais vous avez forcément du stuff, et des personnages. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de payer, vous êtes libre d'acheter des primos avec du vrai argent, bien sûr, mais vous pouvez, comme moi par exemple, ne pas dépenser un seul centime dans le jeu et récolter quand même des primos pour avoir des personnages plus ou moins rares, comme je vous l'ai dit. En bref, c'est un jeu que j'adore et qui m'a beaucoup marqué, même si je trouve les combats parfois difficiles. Toi, LGR, est-ce que le jeu t'intéresse ?
Sincèrement, pas du tout.
Ah ouais ? Pourtant, toi qui as un lore goblin, t'adorerais, parce que vraiment, en termes de lore, ce jeu, vous êtes mais servi. Mais alors, quand je vous dis servi, c'est que moi, j'ai même pas encore tout compris du lore de base, de l'histoire de base, alors que je suis à ma quatrième région.
Bah, en fait, le truc, c'est que c'est pas tant le lore qui pourrait être cool et qui a l'air cool. Le problème que j'ai, moi, c'est tout ce qui est lié au hasard et au gacha. J'aime pas du tout ça. En fait, je trouve que ça pousse à la dépendance et à une certaine dépendance au jeu de hasard. Et je suis pas fan. Surtout que, en fait, très vite, si t'as pas les bons personnages, bah, t'es juste baisé, quoi.
Non, alors justement, non. Parce que du coup, en fait, t'es certifié d'avoir au moins un personnage 5 étoiles au bout d'un moment. Et en plus de ça, tous les personnages ont des capacités qui sont plus ou moins viables. T'as des personnages qui sont un peu moins forts parce que en fonction de la méta, de la mise à jour, etc. Mais si tu stuffes bien ton personnage, si tu stuffes bien les artefacts, etc., il y a aucun souci. Moi, j'ai peut-être 3 persos 5 étoiles et le reste c'est que des après, teams 4 étoiles et je m'en sors très bien et j'ai pas dépensé un seul centime
après,
sur le jeu.
Après, l'autre souci que j'ai, c'est un souci qui est plus récent et je sais que t'es pas d'accord avec celui-là, mais genre créer un personnage inspiré du catch féminin ultra sexualisé dont son coup principal c'est de donner un coup de cul.
Ouais, alors ça, moi je suis pas trop d'accord parce qu'en fait les gens râle pour ça, alors que il y a plein de persos qui sont sexualisés, ils ont jamais rien dit. C'est juste qu'en fait, la personne, elle est un peu plus chubby.
Tu crois vraiment que
oui,
c'est
oui,
ça?
Oui, 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 clairement, parce que il y a plein, mais quand je te dis plein d'autres personnages qui sont sexualisés et personne ne dit rien, n'a jamais rien dit.
Le problème, c'est peut-être aussi la sexualisation. Je vais même pas parler de ça. Moi, chubby, j'aime bien, mais.
Oui, mais ça, je suis d'accord. Et puis, en plus, en soi, elle est pas ultra sexualisée. Bah, si il y a des gens, il y a des catcheuses qui tapent avec leur cul. Ça arrive.
Oui.
Et en plus, au Japon, en plus, je crois qu'il y a une vraie discipline comme ça.
Non, ça, c'est juste un truc dans un anime qui s'appelle le Keijomel.
Non, non, mais je parle pas de Keijomel, mais je crois qu'il y a des vrais coups comme ça. Enfin, bref, même si ça existait pas, mais j'ai déjà vu des catcheuses, faire ça.
Oui.
Généralement, c'est l'hypocrisie sur ce personnage-là, juste parce qu'en fait, elle est chubby, elle devrait pas être sexualisée, alors que tous les autres personnages qui sont skinny ou bien foutus, là, il y a pas de problème. Il y en a même une, on voit un peu sa culotte, qui est un peu, enfin, c'est pas vraiment une culotte, mais c'est une espèce
c'est
de.
String.
Non, c'est pas string, quand
c'est
même.
C'est pas vraiment une culotte, c'est en string. Ah bon.
C'est un espèce de truc crazy qui fait un peu culotte.
Ok.
Personne n'a jamais rien dit. Voilà.
Je ne sais pas, je suis ça de loin, j'avais vu ce drama, du coup j'en parle, je vois le temps, il va falloir qu'on avance.
Oui, et ben ça tombe bien parce que c'est fini Game Pop.
Parfait, bah écoute, de toute façon je rappelle que vous êtes sur Pop Flash, vous écoutez Pop Flash sur Radio G 101.5 FM et on va tout de suite faire notre première pause musicale et on va mettre Saigo no Kyojin, qui est du coup l'une des musiques que l'on retrouve dans l'attaque des titans, tout simplement. Des bisous tout le monde et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Don't
Est-ce que cela vous a plu? Nous, on a bien aimé. Ben, est-ce que vous avez aimé l'attaque des Titans? Est-ce que vous voudriez qu'on parle de l'attaque des Titans? En attendant, de toute façon, nous, on lance tout de suite le générique de de Qu'est-ce qu'on lit? Et on se retrouve juste après. À tout à l'heure.
Préparez vos marque-pages. C'est l'heure de Qu'est-ce qu'on lit avec JR.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lit? Aujourd'hui, on lit un manga qui m'a marqué quand j'étais plus jeune et on lit surtout une BD franco-japonaise que j'ai souvent cru, pendant très longtemps j'ai cru que c'était un comics, qui m'a été offert dans un premier temps par un ami. Alexis, si tu passes par là, je te fais coucou et je te remercie. Et il faut peut-être que je réponde à ton message, mais ça c'est un autre sujet. Mais du coup, on va tout de suite commencer à parler de Shaman King. Mais Shaman King, qu'est-ce que c'est? Outre le fait que c'est un des premiers mangas qui a marqué mon enfance, pour une raison assez simple, c'est que c'est le premier manga dont j'ai eu en fait l'intégralité des livres, tout simplement. Du tome 1 au tome 32, le petit JR passait son temps à vérifier que tout n'était pas passé, et c'est aussi grâce à lui que j'ai appris que, en règle générale, un manga, quand il n'y a pas de hiatus ou qu'on ne s'appelle pas Berserk, sort tous les deux mois. Mais voilà, pour bah, tout ça, vous allez bien vous en douter que j'ai plutôt un lien qui est assez fort avec ce manga. D'ailleurs, je suis en train de racheter les intégrales, c'est pas pour rien. Et je l'aime pour plein de raisons différentes, hein, parce que c'est un manga qui lit spiritualité, du combat, de l'humour, un peu de philosophie adolescente. Et c'était un très très bon combo pour le jeune garçon que j'allais devenir. Mais de quoi est-ce que ça parle, Shaman King? Ça parle de Yo Asakusa, qui est le dernier, qui est le fils unique et du coup héritier d'une très très longue famille d'exorcistes. Et ce garçon va devoir participer à un tournoi qui se passe tous les 500 ans, qui se prénomme le Shaman King et qui permet de définir tout simplement qui va pouvoir contrôler l'esprit qui est plus ou moins l'équivalent de Dieu comme ça en tant que tel et qui du coup lèvera une nouvelle ère. Les rois chamans qui sont particulièrement connus dans le manga, il y en a quelques-uns, des petits noms du style Bouddha, Jésus et d'autres noms que je ne dirai pas ici pour éviter deux trois trucs. Mais sachez que plus ou moins toutes les religions qui ont été qui ont existé sur Terre sont à l'origine dues à un roi chaman qui a gagné ce combat. Et du coup, on va suivre Yo à travers les différentes épreuves, d'abord les éliminatoires, puis le tournoi, ses rencontres, comment est-ce que ça va évoluer, ses pertes, et surtout sa rencontre avec un méchant que j'adore particulièrement, qui est Ao. Dont je ne dirai pas le nom de famille parce que ça peut spoiler. Je viens de m'en rendre compte. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est bien? Déjà parce que Shaman King, c'est un manga / animé qui va vraiment prendre le parti pris de baser tout son manga sur quelque chose qui aurait pu tenir sur un arc, qui est souvent des arcs qui sont beaucoup aimés ou moins aimés, qui sont des arcs de tournoi. Et ce qui fait que c'est un manga qui va être très bien rythmé, mais qui va quand même réussir à avoir ces moments de petite douceur, ce qui manque souvent dans les dans tout ce qui va être justement arc du tournoi, ce qui rend le tout très agréable. On a des personnages qui sont très attachants. J'aime beaucoup Yo et ça, et tout son côté assez cool, détaché et profondément gentil. J'aime beaucoup Ren, Ororo, Lizerg, qui ont leur style et leur histoire qui sont très bien écrites selon moi et qui ont leur propre fardeau. Et encore une fois, ben voilà, moi j'aime beaucoup Ao. Alors certes, il est un peu cliché, certes, c'est un peu l'antagoniste ultra puissant, mais il est très charismatique et son histoire derrière, pour le coup, est assez cool. J'aime beaucoup Love aussi, mais on en parlera dans les points négatifs pour une raison qui est assez simple et que je vais pas là. Que je vais pas développer tout de suite, tout simplement, mais après, j'aime beaucoup les dessins. Les dessins, au début, étaient dessins assez bruts, je dirais, presque naïfs, on va dire, dans leur style, mais qui progressent énormément au fil des tomes. Vers la fin du manga, on a vraiment un dessin qui est maîtrisé et des planches qui sont très très belles. Le combat contre la personne qui maîtrise les plantes, pour pas en dire trop, est un de mes combats préférés et c'est un combat que j'aime énormément. Vous comprendrez que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'attaches par rapport à ce manga, que ce soit dans l'écriture des personnages, dans le dessin et même dans les, dans l'écriture de plus ou moins tout et dans, enfin, voilà, j'aime ce manga d'amour, mais malheureusement, il a tout de même certains points négatifs qu'on ne peut pas vraiment, esquiver, on va dire. L'un des premiers, c'est que il y a pour certains personnages un racisme qui est un racisme assez latent. Et justement, on va parler de Love. Love, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui est un personnage du coup afro-américain, mais qui est une caricature visuelle et comportementale qui aujourd'hui est difficilement excusable. C'est un personnage qui évidemment, c'est le noir du truc, c'est le comique de service. Il a une coupe afro, il est un peu dégarni sur le haut de son crâne, il a des grosses lèvres charnues, il vient du Bronx et son esprit, alors que Yo a un samouraï, Ren a un guerrier chinois, Ororo a un esprit de la forêt, et Lizerg a une fée, lui il a une panthère. Alors c'est stylé, hein, et après il a d'autres esprits qui sont très stylés, mais il a une panthère, et il est africain, et il vient du Bronx. Et évidemment, avant de devenir chaman, il avait un père violent et une mère qui était absente, et il a fini par sombrer dans le crime organisé et a tué ses parents. Ouais, je vois la tête de Mel, et ouais... Quand j'étais jeune, j'étais en mode, je m'en rendais pas compte. Aujourd'hui, j'aime toujours le manga, hein. Ça n'enlève rien, mais il faut en parler. Après, c'était une autre époque. Et puis voilà, le Japon. Et puis on voilà les caricatures racistes dans les mangas de cette époque. On va pas se mentir, c'était un peu Légion. Je sais pas ce que t'en penses toi-même, mais moi je pense que c'était quand même Légion.
Ouais, après, moi je ne suis pas touchée directement.
Ouais, donc mais tu sais que ça existe.
Tu sais que ça existe. Après, je sais que ça existe, les caricatures, etc. Mais je savais pas que, par exemple, dans Shaman King, il y en avait. Après, je connais pas bien Shaman King.
On regardera l'animé parce que j'ai envie de te le montrer.
On avait essayé, j'avais pas aimé.
Faudra réessayer quand même. On va réessayer. Mais... comme ça, tu pourrais voir que Love aussi, parce que ça reste un bon personnage. Hein.
Ouais, mais après, est-ce que toi, tu considères ça comme du racisme? Parce que c'est pas à moi de dire si c'est du racisme ou pas. Vu que je suis pas touchée directement.
Je pense que l'auteur. Ah, désolé, je t'ai coupé.
Pardon, mais je pense qu'en fait, effectivement, il y a des biais peut-être cognitifs de. C'est pas forcément du racisme, mais c'est des mauvaises représentations. Oui. Et ça, c'est un autre sujet.
J'allais y venir justement. Je pense aussi qu'à cette époque, les bonnes représentations de personnes afro dans les mangas, c'était assez rare. On parlera pas de la représentation dans Dragon Ball Z ou dans d'autres mangas qui sont plus honteuses que ça, pour le coup. Vraiment plus honteuses que ça. Mais je pense que ça vient vraiment d'un manque de connaissances, tout simplement du Japon. Hein. On va pas se mentir, c'était un peu le cliché qu'on avait des Africains. Et pour moi, le premier manga qui n'a pas de vraie représentation raciste, je peux me tromper, hein, mais que j'ai lu en tout cas, alors il y a Naruto, qui a des très bonnes représentations de personnages afro. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que toutes les personnes de couleur que je connaisse disent qu'ils viennent de Kumo pour une raison très simple, c'est que meilleure représentation de personnages africains ou noirs dans un manga. Et puis il y a Bleach, très bonne représentation des personnages afro. Mais encore une fois, on peut parler de racisme dans le manga. Il y a encore eu, je fais une petite parenthèse là-dessus parce que ça me touche et que ça m'intéresse. Il y a tout ce qui est aussi je sais pas si t'as suivi ça dans My Hero Academia. Tu sais qu'il y a le personnage qui est l'héroïne numéro 6, qui est une personnage de couleur noire qui
La Lapine,
oui. Ouais. Bah la Lapine à la fin du manga, il y a un auteur de comics qui a fait une représentation de ce personnage avec plein d'autres personnages. Et il l'a blanchi.
Ah ouais, ça c'est pas.
Et il l'a blanchi, il l'a rendu blanche.
Pas ouf.
Il l'a rendu blanche et il a grossi ses seins.
Top.
Et ça, par contre, j'appelle ça du. Ça par contre. Mais bon, les gens. Je sais que ça avait fait un gros débat sur les personnes qui étaient en mode. Beaucoup de personnes afro avaient dit, c'est du racisme. Et t'as plein de personnes, désolé, mais du coup, des personnes blanches qui étaient en mode. Oh, vous voyez le mal partout. Non, les gars, c'est du racisme.
Pourquoi blanchir la peau
L'excuse officielle, ça avait été non mais c'est pour que en fait ce soit plus en accord avec notre de mémoire. C'est, non mais c'est parce qu'il faut que ce soit un peu plus en rapport avec notre audience, l'audience des comics. Encore une fois, je veux rester poli, mais va baiser des chèvres. Genre, c'est fou ça quand même.
Mais surtout encore. Qu'en plus c'était pas un perso vraiment. C'était pas un perso noir,
Elle était métisse foncée. Elle était perso métisse foncé.
Ouais.
Mais vraiment, c'est. Et on parle de Bill de Big 2024 aux États-Unis, hein. Est-ce que ça t'étonne?
Honnêtement, je trouve ça dommage.
Après, voilà, on va revenir. Je vois encore une fois le temps. Je suis désolé, il faut qu'on avance petit à petit. Autre point négatif, c'est enfin la fin qui est un peu cliché et le fait que la mort perd un peu tout son sens à un moment parce que il y a des histoires de possession, de retour à la vie. Et du coup, en fait, t'as plus très peur pour les héros. Même s'il y en a certains qui vont mourir, c'est en fait, t'as plus si peur que ça. Parce que s'ils veulent pas revenir à la vie, ils reviennent pas à la vie, mais s'ils veulent revenir à la vie, ils pourront. Donc c'est un peu dommage. Mais malgré tous ces points négatifs, ça reste un de mes mangas de cœur, un des mangas que j'aime énormément et que je vous conseille vraiment de le lire. C'est rempli de passion. C'est vraiment genre le genre de série qu'on n'oublie pas. Et du coup, pour moi, je vous dirais de le lire et même de lire ses suites qui sont des suites qui sont pour le coup plutôt très très bien. C'est pas parfait, mais je remercierai jamais assez Eroku Hiroyuki Takei d'avoir fait tout simplement ce manga tout simplement. Et normalement devrait y avoir Netflix a annoncé, mais devait y avoir tout Netflix qui avait annoncé avoir réadapté tout Shaman King. Ce sera pas fait, mais j'espère qu'un jour je pourrai retrouver Yo, Adimaru, Ren, Ororo et Love de leurs aventures. Mais de toute façon, c'est fini pour aujourd'hui. Je me disais, ça mettrait en 8. Est-ce que ça donnait quand même envie de le lire, Mel?
Non. Okay. Non, parce qu'en fait, je connais déjà un peu. J'ai essayé de lire, j'ai essayé de regarder l'animé. J'aime pas. J'aime pas, je n'y arrive pas, c'est pas mon... Après, tu sais que moi, tout ce qui est shonen, j'ai du mal.
Oui.
Donc...
Oui, forcément.
Voilà.
Mais du coup, on passe tout de suite à la suite. Et sans transition, on va parler de Freak Squeal, une BD française qui est... j'avais marqué pas comme les autres, mais je le dis ça à chaque fois. Une très bonne BD française. C'est une BD qui m'a surprise, que j'ai reçue. Du coup, d'un ami qui m'avait dit, tiens, j'ai pensé à toi et ça t'a fait rire. Et du coup, c'est une BD qui a été écrite par Florent Maudou. Je l'ai découverte par hasard. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux dire. Et surtout par où commencer. C'est une série de super-héros qui est très très drôle. Et pour ce qui est de l'histoire, tout simplement, on suit trois étudiants un peu paumés dans une fac qui est là pour devenir du coup des super-héros. On va suivre du coup Chance, une démon sarcastique sans pouvoir offensif mais qui a une répartie qui est vraiment trop chambre. Ombre Loup, comme son nom l'indique, en loup-garou, timide, poilu et un peu fleur bleue. Et Xiong Mao, une humaine badass, maître des arts martiaux et surtout une énorme forgeronne. Le trio va donc débarquer à la FEAH, la Faculté des études académiques des héros. Et là, c'est pas juste des cours comment on fait pour sauver le monde. Non, c'est politique, c'est dangereux et surtout c'est injuste. On y apprend à se vendre, à faire du chiffre, à être bankable. Et forcément, dans le monde où tout le monde valorise des pouvoirs un peu tape à l'œil, eux sont très vite considérés comme des freaks, comme des ratés, mais ils sont bien déterminés à prouver leur vraie force et surtout à se mesurer. Et que surtout que la valeur ne se mesure pas à la taille de leur rayon laser. Les points forts, et pourquoi est-ce que c'est aussi bon? C'est un univers qui est déjà très riche et très cohérent. C'est un univers qui est dense, qui est mythologique, qui est plein de références, qui mêle des créatures surnaturelles, les super-héros, l'histoire, des histoires de religion, de la magie et du marketing. Et en fait, il y a plein de trucs, Mel le sait, et vous commencez à le savoir aussi, qui sont des milieux qui me touchent directement. Je fais des études en marketing, j'adore les super-héros, j'adore la mythologie. Donc forcément, c'est un mélange explosif qui me parle et qui est une très bonne critique de tous ces milieux-là. Du coup, j'aime personnellement, ça m'a touché, et je pense que ça pourrait vous toucher aussi. Ça pourrait être vu comme quelque chose d'assez chaotique, mais non, tout tient du début à la fin grâce à une narration qui est solide. On a des personnages qui sont très très attachants. Chance, Ombre, Xiao Mao, mais aussi genre Funérole, Valentine ou Scipio sont juste trop trop bien. Ils ont tous des failles, ils ont tous des ambitions, ils ont tous des secrets. Et ce qui fait encore une fois la force, c'est qu'on les voit évoluer, grandir et il y a du vrai développement de personnages. Ils ont encore une fois, mais je le dis à chaque fois, mais les graphismes sont beaux, ils sont dynamiques. C'est très inspiré des mangas avec deux trois petits twists de la BD franco-belge et ça s'améliore à chaque tome. C'est ça qui est fou. Certains plans sont vraiment dignes d'un artbook et il y a plein de très bonnes idées d'humour et de critiques. C'est de l'humour qui est souvent absurde, voire noir et parfois très très référencé. Mais aussi on a aussi un message sur l'image, sur la pression sociale et sur les valeurs qui sont des valeurs qui sont propres. Et tout ça fait une très bonne satire du coup du monde du super-héros, mais aussi du monde du marketing. Évidemment, il y a quelques petits défauts. Il y a certains passages qui peuvent être considérés un peu comme verbeux, voire confus. L'humour, même si personnellement c'est clairement ma came, il plaira pas à tout le monde. Il est très cru, il peut être ironique, voire méchant. Et c'est tout ce que j'ai vu. J'ai pas encore lu tous les tomes. Donc je pourrais vous le dire quand j'ai fini, si cela vous intéresse. Mais vraiment, osez la lire, parce que pour moi c'est un facile. 9 sur 10. Si ça vous tente, en plus, il y a pas mal de spin-offs liés à l'univers étendu. Et du coup, vous pourrez tout simplement... Voilà, si vous aimez Freaks Wheel, il y a Funérailles qui est un spin-off assez sombre, ultra stylisé avec des avec un des personnages clés. Il y a un spin-off qui s'appelle Rouge, qui est une préquelle autour de Xiao Mao et entre culture asiatique et mafia. Il y a un autre spin-off qui s'appelle Massico, qui est un très gros délire graphique et un peu métaphysique. Et enfin, il y a un jeu de rôle papier pour créer vos propres héros dans cet univers. Je ne l'ai pas encore acheté. Ce n'est pas une question, c'est une promesse. Je vais l'acheter bientôt. Et voilà, c'est vraiment un très très bon univers transmédia. Et évidemment, c'est édité par qui? C'est édité par Ankama, parce que... Pas mal, non? C'est français. Mais voilà, dans l'ensemble, Freaksquill, c'est tout sauf faible. Ça ressemble à pas grand-chose que j'ai lu. C'est une très très bonne... BD qui mélange le rire, le drame, la bastion et la critique sociale. Ça mélange du fantastique, du sérieux et ça arrive à rester cohérent. C'est une vraie lettre d'amour aux marginaux. C'est une déclaration d'indépendance artistique et c'est tout simplement un énorme kiff. C'est vraiment un vrai plaisir à lire. Si vous l'avez déjà lu, je pourrais juste vous le dire, lisez-le. Et encore une fois, un grand merci à Florent Maudou. Parce que, au final, on n'est pas un peu tous le fric de quelqu'un. Est-ce que ça t'a donné envie de le lire, Mel?
Oui, ça m'a donné envie de le lire. Et en plus, maintenant que tu me dis que c'est Ankama, oui. C'est vrai que ça se voit, ouais. Et même dans la façon dont tu t'as raconté l'histoire et tout, clairement...
Ça se voit que c'est du Ankama tout craché.
Ouais,
là.
Ouais.
Vraiment,
donc
vraiment.
Ouais, ça m'a tenté.
Ok, parfait. De toute façon... Vous et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que c'est peut-être vous aussi le plus important. Est-ce que ça vous plaît toujours autant? Je pense malheureusement qu'on n'aura pas vraiment le temps de parler du JDR cette fois-ci, mais on pourra en parler de toute façon une autre fois. On voulait parler de Vampire la Mascarade et de toute façon, moi je vous laisse. Avec la musique Cruel Angel. Et à tout à l'heure.
Oh,
retour. Et du coup, oui, en effet, c'était dans Neon Genesis Evangelion. Ça m'avait complètement sorti de la tête. Mais du coup, il nous reste normalement entre 3 et 5 minutes. Du coup, je vais faire une chronique JDR Express. On se retrouve juste après... On se retrouve juste après le petit générique, comme d'habitude.
La chronique JDR lance les dés avec JR.
Pour cette chronique lance les dés, comme je vous l'ai dit, je pensais que je n'avais pas le temps, mais je me suis trompé. Ça arrive même au meilleur. Et du coup, ce sera vraiment une chronique, par contre, qui sera très très rapide dans le sens où, j'avais envie de vous en parler quand même. Je sais qu'il y en a certains qui attendent ça. Mais du coup, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de Vampire la Mascarade. Je vous en ai déjà parlé là, il y a 2 semaines, quand je vous ai parlé de Cat la Mascarade. C'est un jeu de rôle, du coup, gothique et contemporain. Vous incarnez des vampires. No shit, ça s'appelle Vampire la Mascarade. Des créatures immortelles cachées au sein de la société humaine. Dans le monde qui est le nôtre, mais teinté de noirceur, vous allez être confronté à des politiques souterraines, à des guerres de clans, à des manipulations Et voilà, les vampires doivent cacher leur existence, un peu comme les chats. Selon la mascarade, une loi sacrée imposée par la secte dominante, la Camarilla. Chaque vampire est un membre d'un clan avec ses propres pouvoirs appelés discipline et ses malédictions. L'univers est profond, dense et mature, et il est souvent sombre et tragique. C'est un pilier du jeu de rôle. Ça a été créé en 1991 par White Wolf. Vampire a révolutionné le genre, mettant l'accent sur le roleplay, les émotions et la narration. C'est une référence vraiment majeure dans le style du JDR narratif, et c'est incontournable pour tout MJ expérimenté. T'as vraiment une ambiance qui est unique et immersive. Tout est pensé pour servir une atmosphère sombre, intime et étendue. On joue souvent dans des décors urbains nocturnes avec une esthétique gothique et sensuelle. L'ambiance est au cœur de l'expérience. Silence, lourd, tension psychologique et tragédie lente. C'est un univers qui est vraiment riche et vivant. Entre les clans Brugia, Nosferatu, Malkavian, Ventru, Toredor, Gangrel et tous les autres. Tous ont une identité forte et chaque faction a sa propre regard en fait sur la société vampirique. D'un point de vue des factions, on pourrait parler des Camarilla, des Anarchs ou des Sabbats. L'histoire est vraiment détaillée ville par ville et époque par époque. Et enfin, l'univers s'étend entre romans, jeux vidéo et bientôt une série télé, visiblement, de ce que j'ai vu. C'est des thèmes puissants et adultes. Par contre, on va aller très très vite là-dessus. Ce n'est pas un JDR que je conseille à tout le monde. On va parler de sujets qui vont souvent être graves. On va parler de guerre, on va parler de manipulation. Et on va parler parfois de meurtre. Par contre, c'est un très bon jeu de rôle si vous voulez jouer des personnages qui sont moralement gris. Mais voilà, pourquoi est-ce que c'est culte comme jeu de rôle? Je vais très vite, hein, parce que c'est une présentation rapide. C'est parce que pour moi, Vampire est un jeu de rôle qui présente très bien notre société et qui en fait la critique. Qui fait que si vous êtes un joueur ou un MJ expérimenté, avant un dernier épisode de la saison, se termine. C'était JR, accompagné de Mel. Mel, le mot de la fin.
Eh ben, merci à tous de nous écouter et d'être là à chaque fois.
En espérant que ça dure encore longtemps. Des bisous tout le monde, portez-vous bien. Et à la prochaine.
À la prochaine.
Radio G 101.5 FM, radio-g.fr.